vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
goal. Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Si vous écoutez le podcast régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de l'OM et pour la première fois depuis que je l'anime, j'ai reçu mon premier champion de France avec l'OM. C'était en 2010, il jouait comme milieu de terrain, il s'appelle Fabrice Abriel. Pourtant, quand on pense à lui, ce n'est pas l'OM qui nous vient en tête en premier, mais le FC Lorient, club où il a passé 3 saisons sous les ordres de Christian Gourcuff. Dans cet épisode, l'ancien Merlu nous parle de beaux jeux, de 4-4-2, mais aussi de ses titres glanés avec Marseille et bien sûr de sa carrière d'entraîneur encore toute fraîche. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans le nouvel épisode de Banquette. Salut Fabrice, comment ça va ?
Ça va pas mal, ouais.
Pas mal ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu deviens ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Moi je te regardais à la télé, donc pas personnellement, ouais. Mais qu'est-ce que tu deviens ?
Ça dépend combien de temps on a.
on a du temps, t'inquiète pas pour ça.
Ouais, non, bah on a fait plein de choses hein, depuis que j'ai arrêté de jouer en 2015 à Valenciennes sur ma dernière année. Donc carrière de 17 ans, professionnel en tant que joueur. Je me suis orienté vers le métier d'entraîneur,
ouais.
En passant les diplômes. Voilà. J'ai parcouru un peu je suis revenu sur le monde amateur pour comprendre un petit peu les difficultés hein, du métier, sans l'assistance, sans tout ce qui est aide médicale, analyse vidéo, prépa athlétique, etc. Découpelle, déploie, à n'en plus finir.
Et alors, voilà. C'est comment de revenir à la source?
On va à l'essentiel. Mmh. Hein, ça nous permet de comprendre ce qui est superflu. Chez les professionnels et ce qui est essentiel pour le football.
Voilà. C'est-à-dire ?
La pratique du football, c'est d'aller sur le terrain et de jouer. Parce que avec 3 entraînements par semaine pour le niveau amateur, lorsqu'ils arrivent après une journée de travail, ils ont envie de jouer. Donc, c'est essayer de les faire travailler sous une forme jouée.
Ouais.
Et vous verrez que le jeu est important chez moi. Voilà, donc l'essentiel c'est quand même qu'ils prennent du plaisir tout en leur mettant un certain nombre de contraintes qui vont leur permettre quand même de progresser tout au long de la saison.
Et ça te fait du bien de retrouver un peu cette simplicité, ce jeu tout simplement sans tout l'exercice médiatique, toutes les contraintes du professionnalisme, ça te fait plaisir de retrouver ça?
Bah, ça me permet de recommencer à apprendre le football en tant qu'entraîneur, comme je l'ai fait en tant que joueur, en fait. Je reproduis le même parcours, où on monte les échelons, et pour comprendre un petit peu se construire et quel est le chemin pour arriver à quelque chose de pratiquement complet, parce que pendant 30 ans, j'étais dans une structure professionnelle puisque je suis formé au Paris Saint-Germain depuis que j'ai 10 ans. J'ai maintenant 40 ans. La structure professionnelle, je peux considérer que j'ai une très bonne expérience. Le niveau amateur, très peu en tant que jeune, mais je sais très bien que lorsque déjà on arrive à être tous habillés de la même façon, on est déjà pas mal. Voilà. Donc non, c'est comprendre et repartir de zéro en sachant que j'ai aussi eu une carrière de joueur. Voilà.
Ouais. Et ça fait combien de temps maintenant que t'entraînes ?
C'est ma 4e année.
Et t'es où ?
Et cette année, je suis à Amiens, sur l'équipe réserve, au centre de formation d'Amiens.
T'es passé par Amiens en tant que
pro ? Voilà, j'ai joué 3 ans. J'ai été prêté par le Paris Saint-Germain à Amiens en 2001. Et j'ai joué pendant 3 ans, puisqu'après j'ai définitivement signé là-bas.
Voilà. Et du coup, ton ambition en tant qu'entraîneur, là, t'es dans la réserve d'Amiens, c'est de passer entraîneur principal d'une équipe pro, c'est ça, à terme ?
Ben, c'est la même que lorsque j'étais joueur, lorsque je suis venu à Amiens, c'est un peu le club qui m'a lancé dans le monde professionnel parce que c'est celui qui m'a fait le plus confiance en termes de temps de jeu. J'ai su comprendre quel est le rôle d'un titulaire et empiler les matchs. Donc en 3 saisons, j'ai pratiquement pas raté de match, 1 ou 2 peut-être. Donc c'est quasiment 120, 130 matchs en 3 ans. Voilà. Donc pour moi, c'était, ils ont une importance dans la suite de ma carrière, dans ma construction. En tant qu'entraîneur, c'est pareil. On a une structuration qui est différente que de par rapport aux autres centres de formation. On fonctionne, si tu veux, la semaine comme un concepteur ou un assistant. Voilà, le concepteur crée la séance, l'assistant est focus ou zoom sur quelque chose de bien précis. Voilà, on est dans le management d'un staff. Et puis, on n'est pas forcément sur notre équipe. On tourne avec les U17, les U19. Mmh. Et ensuite, on récupère notre groupe que le vendredi pour préparer le match. Voilà, c'est une structuration, c'est une forme d'organisation différente. Mais ça a le mérite d'être mis en place. Et nous, et moi, en tant qu'entraîneur qui passe aussi son diplôme DES cette année, c'était une super mise en situation.
On va parler de ta carrière de joueur après, mais j'ai envie qu'on reste un peu concentré pour l'instant sur celle d'entraîneur. Comment tu définirais ton style, ta fonction? Comment il est Fabrice Abriel en tant qu'entraîneur, tout simplement?
Pragmatique, on va à l'essentiel.
C'est parce que tu as côtoyé Deschamps que tu es pragmatique?
Non, parce que côtoyer Didier Deschamps comme côtoyer Claude Puel, Luis Fernandez, Christian Gourcuff, Denis Troche, tout ça, ça m'a donné des billes. Voilà. Mais quelque part... je suis le propre architecte de ma construction et c'est moi qui vais animer tous les jours les séances. Donc il faut que je trouve mon ADN, voilà, en tant qu'entraîneur. Les réactions épidermiques, on ne peut pas les copier. Donc quand ça sort. Ouais. C'est Fabrice, c'est les mots de Fabrice qui vont sortir. Tout simplement. Donc voilà, c'était. En fait, c'est ça, c'est le chemin. On est dans le chemin. Je me confronte à de la compétence, à la formation. On partage aussi avec d'autres stagiaires qui sont dans des structures pro. On a des cadres à la Fédé qui nous remettent un peu en question. Ça conforte mes certitudes, mes convictions. Voilà, même si les certitudes, beaucoup vous diront que il faut sortir de sa zone de confort, etc., etc. Moi, je vous dis qu'il vaut mieux avoir des certitudes quand même.
Ouais.
Que de pas avoir d'idée.
Et du coup, comment tu fais jouer actuellement ton équipe ? Elle ressemble à quoi ?
Alors, mon équipe, on est à la formation. Donc, l'essentiel de la formation, c'est d'apprendre des choses, de remplir un petit peu le sac à dos et d'outils qui vont leur permettre d'avoir des réponses au plus haut niveau. Donc, c'est voir 3 systèmes, voir peut-être 2 ou 3 postes. Voilà, c'est... dans une programmation sur l'année, c'est de procéder par cycle, des cycles assez courts, hein, pratiquement comme sur les cycles scolaires, on est sur 6 semaines, voilà, donc 5-6 semaines, on essaie de travailler, voilà, des systèmes différents.
Ouais.
Et puis on n'oublie pas quand même que le match, le week-end, c'est le match, parce que nous, on est sur un groupe senior. Et quand on est une réserve pro, on a aussi affaire aux redescentes de joueurs professionnels. Donc la compétition est quand même importante et la statistique fait avancer le joueur aussi. Voilà. Et on apprend mieux quand on gagne.
Ouais. Quand tu dis la statistique, c'est ces petites carottes qui...
Bah, le classement, ouais. Les stats, les buts, le temps de jeu, le nombre de passes décisives, le nombre d'entraînements effectués. Ouais, tout ça, c'est important pour que le joueur se situe et s'évalue, en fait. Voilà, parce que on est un peu dans ce monde-là aujourd'hui. On est dans l'analyse.
Effectivement. Ouais. Tu penses que c'est une bonne chose ou qu'on en fait trop, justement, sur les stats
Je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tous les cas, elle existe. Il faut la prendre en compte. Et puis, j'ai envie de dire clairement, il faut savoir l'utiliser. Donc, les chiffres, il faut les faire parler aussi. Parce que lorsqu'on compare, on prend des chiffres sur la possession, sur le nombre de passes réussies pour un milieu de terrain, par exemple, il faut savoir combien de passes vers l'avant.
C'est ça.
Etc. Voilà, combien de passes à moins de entre 0 et 10 mètres, entre 0 et 20 mètres, combien de passes de décalage, combien de, voilà, pour un milieu de terrain. Les courses, on parle de haute intensité quand on voit Kylian Mbappé. Il fait des courses à haute intensité, très, très très bien, il a une double accélération, etc. Donc ça, c'est des stats. Okay. Et puis après, on va prendre un autre joueur, il va avoir les mêmes intensités ou un volume de courses énorme. il va avoir une répétition de course à haute intensité, mais on va se rendre compte visuellement que c'est vers l'arrière. Donc, pour un piston, par exemple, donc il prend beaucoup de ballons dans le dos, il fait beaucoup d'aller-retour. Voilà, c'est, faut savoir analyser les statistiques.
Ouais, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit le foot à travers ces chiffres-là et qu'on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi, et que certaines personnes, moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, s'appuient justement sur ces chiffres-là pour dire bah, regardez, tel joueur a fait ça, donc il est bon ou il n'est pas bon. Et des fois, on oublie juste de regarder les matchs et de voir comment le joueur se comporte en match. Peut-être qu'il ne fait pas assez de courses à haute intensité, mais que dans l'utilisation du ballon, il est très très propre, toujours vers l'avant et qu'il n'a pas forcément besoin de courir. C'est mon impression, je sais pas, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire comment on utilise ces stats-là en fait.
Bah heureusement que les entraîneurs sont là, parce qu'ils ne s'appuient pas que sur la stat. La stat leur permet de situer les choses. Et puis comme ça, quand c'est comme l'image, l'utilisation de l'image, lorsqu'on fait intervenir sur une indive vidéo un joueur, l'image, elle n'est pas arbitraire, elle est parlante. Donc, du coup, ça permet de discuter, de débattre et peut-être même de progresser, de passer à autre chose. L'entraîneur va regarder un petit peu ce qui se passe autour du match avec toutes les applications qu'on peut, Opta, etc. Voilà, il y a un maximum de données. Mais il faut être capable d'utiliser ce qu'on a besoin et d'expliquer ce qu'on a besoin. Donc, si effectivement qu'on a un joueur qui dribble beaucoup, c'est le meilleur dribbleur, mais qu'il a deux passes décisives, forcément moi je vais pas, si je suis entraîneur, je vais pas être content parce que c'est le meilleur dribbleur. Je serai content quand il fera des passes décisives. Voilà, donc le rôle il est là aussi de l'entraîneur, c'est de resituer un peu tout le monde par rapport à toutes ces données. Et puis ceux qui commentent, comme moi j'ai pu l'être sur Consultant ou toutes les autres chaînes, etc., ils posent un avis, mais c'est un avis sur le match. Ouais. L'entraîneur, il a les joueurs tous les jours.
Tout le temps, c'est ça.
Voilà, et je pense que le premier thermomètre ou baromètre du joueur, c'est l'entraîneur.
Et pas la presse, c'est ça que tu veux dire ?
Non, parce que la presse, en fait, ils utilisent... des choses qui ont déjà été faites, mais la préparation, qui en parle ? Toute la mise en place qui va arriver au match, avec le plan de jeu, avec l'entraînement de tout ce qu'on a travaillé, etc. Qui le met en place ? Ça peut pas être la presse.
Effectivement. Voilà. Et donc là, on a parlé pas mal de ta carrière d'entraîneur. J'ai envie maintenant on aborde ta longue carrière de joueur. Et si ça te va, commencer directement par ce que je considère un peu comme être le prime de ta carrière, ton apogée, on va dire, footballistique, c'est-à-dire à Lorient. Tu arrives dans ce club de Bretagne en 2006, tu as 27 ans. Et c'est à ce moment-là que tu découvres la Ligue 1. Tu as fait pas mal de Ligue 2 à Amiens, Guingamp. Quand tu arrives à Lorient, à cet âge-là, est-ce qu'avant de signer, tu avais... pas cette peur de jamais connaître l'élite. Il y a beaucoup de joueurs qui ont bourlingué en Ligue 2, en National, sans jamais connaître la Ligue 1. Est-ce que toi, tu as eu cette peur à un moment de jamais connaître le plus haut niveau en France ?
La difficulté de mon parcours se situe au départ, vu que je suis au Paris Saint-Germain et que je signe pro. Mes premiers matchs pro, je les fais au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Je suis proche de la Ligue des Champions, on fait des bancs, etc., etc. Et puis en fait, tout le décalage va partir d'ici. Et on s'imagine tout de suite, lorsqu'on est au Paris Saint-Germain, que le prochain club sera certainement Chelsea, Manchester, Milan, etc. Alors à défaut ou à tort ou à raison, on a raison de croire ça, parce qu'on est au niveau de la France, un des plus hauts niveaux de la France. Et ensuite, il y a le décalage. Et le décalage, c'est quoi ? C'est le fait de dire, bon, certes, je suis au Paris Saint-Germain, mais je suis remplaçant. Et quand je joue, le plus de matchs où j'ai joué, c'est en National 2. Donc, il va falloir déjà que je passe par la case Ligue 2 pour savoir si j'ai le niveau. Et effectivement, j'ai le niveau. Pendant 2, 3, 4, 5 ans, où je rejoins après Guingamp, après Amiens, je rejoins Guingamp. Pendant 2 ans, avec Noël Le Graët, où ça m'a permis de me construire, de continuer à me construire sur un effectif essentiellement composé de joueurs de Ligue 1, prêts à remonter en Ligue 1 et à venir de redescendre. Voilà. Lorsqu'ils descendent, ça me donne un autre rôle. Je reprends aussi le brassard de capitaine à un moment donné, que j'avais déjà à Amiens. Donc je m'affirme un peu comme un cadre de cette Ligue 2, quelque part. Et ce qui va me permettre d'arriver avec des certitudes et une confiance sur mon jeu. Puisque j'avais joué tout le temps et à beaucoup de postes. Donc j'avais un bagage quand même de confiance en moi. Après, c'est l'intensité, le rythme, l'adversaire, etc., qui allait me permettre de comprendre un peu si j'avais le niveau. Mais si on ne teste pas, on ne saura jamais. Donc, ouais. Je fais le choix d'y aller, sachant que le club de Lorient, Christian Gourcuff, voulait déjà que je vienne il y a déjà 7 ans.
Ah oui, et pourquoi tu n'étais pas parti alors ?
Alors, je n'étais pas parti la première année parce que le Paris Saint-Germain n'a pas voulu me prêter, tout simplement. Et lorsque j'ai voulu y aller... À la trêve...
On est en quelle année à ce moment-là ?
On est en 2000.
Ouais.
Voilà, 2000, 99-2000. J'ai voulu pas... Donc l'été, on vient de se qualifier en Ligue des Champions. On recrute Nicolas Anelka, Stéphane Dalmat, Peter Lixin, etc. etc. On repart sur un projet. Donc ils ont réussi à me convaincre du projet. Nous, on est en stage à Orléans. On rencontre Lorient. Ça se passe bien. Sur la pelouse, on me demande de venir. Il me prolonge, il me garde. Il y a la Ligue des Champions, il faut un effectif un peu pléthorique, voilà, assez large. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Et puis après, on change d'entraîneur, Philippe Bergerot. Luis Fernandez arrive. Voilà, on est sur l'année 2000 pratiquement. Et quelque part, en janvier, on n'est pas à la formation. Donc Luis me dit, bon voilà, Fabrice, la formation, je ne vais pas avoir le temps. Je dis, ok, bah moi je pars. Quand je sollicite Lorient, ils sont interdits de recrutement parce qu'encadrement de la masse salariale. Voilà, c'est un timing qui n'était pas là, quoi.
Ouais, effectivement. Donc du coup, 7 ans après, finalement, bah, là
montent,
tu dis oui.
Voilà, eux ils montent, ils sont en Ligue 2 avec moi, on joue les uns contre les autres, je marque aller-retour, ça se passe super bien. Ils montent avec Sedan et Valenciennes cette année. Et naturellement, je continue l'aventure avec un groupe de Ligue 2, renforcé par 2, 3, 4 de Ligue 1. Ça me permet d'être en confiance avec un jeu, une qualité de jeu.
Ouais. Et du coup, tu sais, est-ce que tu es d'accord avec le fait que, à Lorient, tu as joué ton meilleur football ?
La situation, le contexte, tout était en adéquation avec mon ressenti footballistique. Un jeu avec une intelligence collective, des déplacements coordonnés, un cadre très précis et à l'intérieur de la créativité. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Mais dans le football, dans une carrière, même un entraîneur, vous n'avez jamais un cadre idéal. Donc en fait, l'adaptation est votre meilleure arme dans ce métier. Et il y avait tout qui était réuni, mais il n'y a pas les titres au bout. Et pour avoir un crédit et pas être seulement un joueur reconnu comme un bon footballeur, il faut aussi gagner. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, le choix était de partir à un moment donné. Mais j'aurais kiffé être à Barcelone et rester à Barcelone toute ma carrière. Juste pour le jeu et en gagnant des titres.
Ou rester clairement à Lorient et gagner des titres à Lorient aussi.
Ouais, mais c'est compliqué vous avez des mastodontes. Ouais, ouais, c'est compliqué parce qu'il y a un environnement qui est très calme. Il y a une qualité de jeu. On est beaucoup sur... Il y a beaucoup d'énergie à dépenser sur le terrain collectivement. Et si vous amenez, vous recrutez des joueurs qui ont un ego, l'équilibre de l'équipe en pâtit, et s'il y a un déplacement ou un deuxième ou un troisième joueur qui ne font pas les déplacements au bon moment coordonné et qui n'ont pas envie, ça enlève toute la force du collectif. Voilà. Donc c'est quelque chose que Christian Gourcuff n'avait pas envie de gérer. Il ne veut pas gérer un individu, il veut gérer un collectif. À l'intérieur, l'individu va s'exprimer et ses qualités vont ressortir. Le 1 plus 1 égale 3.
Qu'est-ce qui a manqué à Lorient, justement, à ce groupe, à ces groupes que tu as connus lors de tes 3 saisons, pour justement gratter un titre ou aller... Parce qu'en termes de football, c'est ce que tous les observateurs disaient à l'époque, c'est que le football de Lorient était un des plus beaux de la Ligue 1. Ça ne se reflétait pas forcément au classement, mais en termes de jeu pur, il y avait quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller un petit peu plus haut? Peut-être qu'à toi aussi, peut-être qu'il t'a manqué quelque chose pour tirer cette équipe peut-être un peu plus vers le haut ?
Ouais, bah en fait, c'est ce qu'on disait. On a des individualités. Et on avait des joueurs comme Kevin Gamero, on avait des joueurs comme Christophe Jallet, Jérémy Morel, Michael Siani, Dédé Gignac. On avait des joueurs, des individus. Mais après, l'environnement, à un moment donné, pour aller gagner des matchs, il faut être agressif dans les coupes. Il faut faire du one shot. Il faut des fois savoir abandonner son projet de jeu. Et il était hors de question. Hors de question de changer de projet de jeu, de balancer le ballon
pour
devant.
Pour Gourcuff, c'était mort.
Impossible. On préfère perdre avec la manière que gagner sans la manière.
Toi, c'est une philosophie qui te parle, ça ?
J'y suis à moitié d'accord. Parce que je considère quand même qu'il y a moyen de bien jouer et de gagner. Ce que fait Pep, alors c'est pas gagner tout le temps, c'est pas gagner les titres majeurs, mais ce que fait Barcelone aujourd'hui, ce que fait Guardiola à Manchester City, je me dis, l'Espagne, quand elle a dominé championnat d'Europe, Coupe du Monde, ben, en fait, je me dis que ben, c'est les meilleures équipes, en fait. Le meilleur joueur, c'est Messi, je veux dire, c'est des joueurs de football, on appelle des joueurs de football. Donc, le Paris Saint-Germain domine le championnat de Ligue 1, ok, parce qu'il a des individualités, mais c'est l'équipe qui joue le mieux au football, on va pas se mentir. Il y a un projet de jeu, le ballon il est au sol. Un mec comme Marco Verratti qui prend des risques dans les sorties de balles, Marquinhos, même Tino Kerrer, même Thiago Silva, même s'ils font des erreurs parfois et tout, ils essaient toujours à l'excès de sortir le ballon proprement. Et ça veut dire que là, c'est bien ancré qu'il y a un projet de jeu établi. Voilà. Et je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre bien jouer au ballon et être efficace.
Et ça arrivait parfois qu'en match, où toi ou tes coéquipiers sortiez du plan de jeu, je sais pas, pour balancer un long ballon, on est en fin de match, il faut gagner en coupe ou en championnat, et que Gourcuff vous dise non, c'est pas comme ça, on laisse le ballon au sol, il n'y a pas de long ballon.
Ouais, on a toujours été au sol.
Ah ouais.
La question s'est jamais posée. C'est la Christian Gourcuff, c'est pratiquement la seule fois où je me suis retrouvé sur le terrain avec aucune question à me poser. J'avais toutes les réponses. Sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan des systèmes, sur le plan des espaces, sur le plan de la couverture. Quand on faisait une erreur, on prenait un but, on faisait une erreur pendant 5-10 minutes, on prenait le bouillon, on savait pourquoi. C'est parce qu'on n'était pas bon dans le pressing, il n'y avait pas une bonne coordination, on n'avait pas changé les intensités. Si on subissait, c'est parce qu'on n'arrivait pas à ressortir le ballon proprement, on n'arrivait pas à reprendre la qualité de jeu. Il y avait toujours une raison footballistique. Et dans tous ces débriefs d'après-match, c'était toujours une raison footballistique et un recadrage technique. Et c'est ce que j'apprécie chez lui. Après, c'est pas le meilleur entraîneur du monde. Sinon, je serais pas à Lorient. Mais dans sa philosophie, il a été au bout. Il a été au bout. Il a toutes les réponses. Si vous lui posez une question sur le football, il a toutes les réponses.
C'est assez incroyable ce que tu dis justement sur le fait d'arriver sur le terrain et de savoir exactement quoi faire, quand le faire, comment. Peut-être pas comment le faire, parce que là, c'est plus, je pense, au footballeur. Mais d'avoir toutes les réponses aux questions et d'arriver sur un terrain, comme si tu arrivais, je ne sais pas moi, sur un nouveau job, on te dit, bah, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, après, rouler jeunesse, quoi.
Bah nous, c'était clair. Le système en face nous importait peu. Le contexte nous importait peu.
Parce que oui, Lorient, c'est toujours en 4-4-2. Hein.
4-4-2 à plat, c'est très rationnel. Il y a un joueur dans chaque zone. Les lignes sont dans... Voilà, il y a une distance, c'est 12 mètres entre les joueurs, entre les lignes. On garde les distances. La ligne défensive suit l'attaque quand ça monte. On se replie défensif. Il y a toujours nos deux attaquants qui sont là. On est capable de défendre à 8. Quand on attaque, on garde les équilibres. On a 3+2. Enfin, c'est clair. C'est très clair, il y a un joueur, quand on centre le milieu gauche qui déborde, il centre, il y a un joueur dans chaque zone, il y en a un en premier, un point de pénalty, un au 18, un au deuxième poteau. Enfin, c'est très clair.
Ouais. Mais est-ce que c'est pas trop dur, justement, ça n'a pas été trop dur d'intégrer toutes ces notions tactiques? On a l'impression que quand on écoute ou on lit Christian Gourcuff, on se dit, oulala, sur 4-4-2, il faut faire ça, 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 ça.
Il y a beaucoup de réflexions.
C'est ça, on se dit, c'est peut-être qu'il faut trop réfléchir. Alors toi, tu me dis, en fait, c'était hyper simple,
ouais.
Mais du coup, c'est quoi le truc ?
C'est une histoire, en fait, c'est toujours une histoire de point de vue. Soit vous le voyez complexe, soit vous le voyez simple. C'est une histoire de point de vue. Si vous n'avez pas envie de faire les efforts, vous allez dire, c'est compliqué, putain, il y a des efforts. Mais là, moi, je sors. C'est très clair. Le ballon, il est en face de toi, tu sors, point. et moi je te couvre. Derrière, comment ça se passe? Mais c'est pas ton problème en fait, c'est mon problème. Voilà, tu t'occupes de l'espace qui est devant toi. C'est simple. Et si tu n'y es pas, ça veut dire que tu es en couverture. Soit tu es en cadrage, soit tu es en couverture. Il n'y a pas plus simple en fait.
Tu as connu des joueurs qui n'arrivaient pas à intégrer ces notions-là, pour qui ça a été dur de s'intégrer dans les équipes de
Gourcuff? Oui, bien sûr. On a des joueurs comme André Ayou, c'était compliqué.
Moi, je me rappelle d'un
c'est
match...
C'est beaucoup des joueurs sur l'aspect individuel qui sont très forts et qui avaient du mal à faire l'effort sans ballon et à se projeter... voir qu'en fait, ils avaient du mal à se projeter dans leur tête qu'ils étaient... ils pouvaient être efficaces sans avoir touché le ballon. Ils pouvaient être bons pour nous, sans avoir touché le ballon. Ils pouvaient être utiles sans avoir touché le ballon, juste en étant bien placés. Et parfois, quand on dit de c'est un peu un cœur qui respire, quand on est... on n'a pas le ballon, on réduit les distances, hein, on est plus sur une main fermée. Et quand on récupère le ballon, on est plus sur une main ouverte, en explosion. Voilà. Et en fait, le fait d'être tout de suite très large et de ne pas rester au ballon permet d'avoir du choix. Et on n'est pas forcément servi sur le premier appel qu'on va faire, mais peut-être que votre appel va bénéficier pour un autre joueur et que vous allez retrouver le ballon en deuxième ou en troisième passe. Et ça, il faut le comprendre. Pas toujours être à l'origine de l'action, pas toujours être sur la passe décisive, mais peut-être être le joueur qui va libérer l'espace pour son partenaire. Et ça, c'est un don de soi. Donc c'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on a l'habitude de raisonner le football à partir du moment où on a le ballon dans les pieds.
T'as cité l'exemple d'André Ayou, parce que je me rappelle d'un match, il me semble que c'était contre... Le PSG, il rentre en jeu et quelques minutes après, il se fait sortir par Gourcuff alors qu'il venait de rentrer en jeu.
C'est André ou Jordan?
Il me semble que c'est André. C'était avant qu'il...
J'étais là.
Ouais, donc il me semble que... Ouais, c'est sûr que c'était André Ayou, c'était pas Jordan Ayou. C'était un match au Parc. Je crois que c'était encore les années où vous gagnez souvent au Parc des Princes.
Ouais, exact. Ouais.
Ça, c'était assez incroyable quand même.
Bah, on avait le contre-jeu de ces équipes. Je vous expliquerai pourquoi si on a le temps. On avait le contre-jeu, ouais. On avait le contre-jeu, pourquoi? Parce qu'en fait, ces équipes-là, elles ont une difficulté à admettre qu'elles ont... une équipe comme Lorient puisse leur poser des problèmes, surtout à domicile. Donc à un moment donné, lorsqu'ils ne trouvent pas la solution collectivement, il se passe quoi? Il se passe un phénomène très simple, l'équipe se coupe en deux. Voilà. Et c'est souvent en deuxième mi-temps, à 0-0, on arrive à la mi-temps à 0-0, ça c'est notre plan de jeu. Il y a l'envie des attaquants de faire la différence, et les défenseurs, ils savent que ça va être chaud. Ils savent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se coupent en deux. Et à partir du moment où ils se coupent en deux, nous, on a gagné le match. Parce qu'à la 60e ou à la 70e, le public joue le rôle. Le rôle que nous, on veut qu'il joue, c'est qu'il siffle son équipe. Voilà. Et comme l'équipe se coupe en deux, elle court après le ballon. Et nous, on a une remontée de balle collective. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours des joueurs disponibles dans chaque zone, dans chaque espace. Et quand vous courez à domicile face à une équipe comme Lorient, vous avez les boules. Et c'est là que le public s'en mêle. Voilà. Nous, on a une prise de confiance et à un moment donné, parce qu'on a un jeu pour créer des occasions. Vous verrez, le jeu de Lorient, à chaque fois, il y a des occasions, peut-être une dizaine par match. On a toujours l'attaquant qui finit dans les meilleurs buteurs parce qu'il a énormément d'occasions. Voilà. Et on aura toujours une occasion. C'est très simple parce que notre jeu est basé sur la verticalité, sur le jeu vers l'avant. Voilà. On a toujours des joueurs dans les zones, il y aura toujours des frappes de loin, il y aura toujours un centre avec deux ou trois joueurs dans la surface. Il y aura un joueur à la retombée, il y a un deuxième ballon à jouer, il y aura des corners, il y aura tout. On va jouer. On n'a jamais eu un match où on n'avait pas d'occasion. On a toujours des occasions. Et donc forcément, on a des bons joueurs. Quand on a un Kevin Gamero, un André-Pierre Gignac ou un Rafik Saifi devant, ces mecs, c'est des bons joueurs. Donc, ils vont marquer. Hein.
Effectivement, c'est vrai que vous avez embêté pas mal de grosses équipes. J'ai cité le PSG parce que c'était vraiment...
Ouais, Marseille, pareil. Ouais, ouais. Lyon, pareil.
Pour moi, c'était un peu la running joke. C'était tous les ans, le match au parc, Paris se fait fesser par Lorient. C'était...
La première journée de championnat.
C'est toujours comme ça.
Ouais. Première journée, je crois,
2-3 saisons de suite.
Première journée, je reviens avec Lorient. On fait notre premier match au parc. Fabrice Fiorez est chez nous.
J'avais oublié cette histoire. Ouais.
3-2, 3-1 ou 3-2, je ne sais plus, mais un doublé. Rafik Saïfi marque, premier match, ça lance notre saison. Il a dû faire 3 matchs, Fabrice Fiorez, mais il a mis un doublé contre le Paris Saint-Germain.
Ça fait un beau ratio quand même.
mais il a lancé notre saison quelque part, parce que nous, dans les 5 premiers matchs en début de saison, l'objectif, c'est de gagner. Gagner un ou deux matchs, parce que nous, on n'a pas le choix, en fait. On sait très bien quand je le maintiens. Donc, ces points-là, quand on joue les gros, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Donc, mois d'août, ils sont pas prêts. Eux, ils attendent la Ligue des Champions, septembre, mi-septembre, tout ça, pour être au top. Mais nous, on donne tout dès le début. Donc, c'est pour ça que souvent, au mois d'août, il fallait pas trop jouer Lorient.
Et c'est quoi ton meilleur souvenir de match avec Lorient ? C'est victoire contre Paris, Marseille, ou c'est un match contre une équipe un peu de votre rang qui jouait le maintien aussi ?
Non. On a un match qui reste dans les annales pour les supporters parce qu'on a fini le match à 9 avec Ulrich Le Pen dans les buts. Contre Valenciennes, on a réussi par gagner 1-0. Parce qu'en fait, on a notre premier gardien, Fabien Audard, qui se fait expulser. Je crois que c'était peut-être 30e minute, un truc comme ça. Après, on a le deuxième gardien qui se blesse. Et on joue quasiment une heure. À 10 avec un joueur dans les buts, en fait.
Waouh! Et est-ce que du coup.
Et on gagne 1-0, ouais. on réussit à marquer quand même.
Est-ce que du coup, le fait d'avoir un coach, un schéma.
Il n'y a plus de schéma là.
Il n'y a plus de schéma. Ah là, c'est le seul moment.
Si, on a deux lignes de 4, en fait. On est à 9, on a un gardien, deux lignes de 4, un seul attaquant devant. C'est simple. Mais nous, à deux lignes de 4, à l'entraînement, on était habitués. Parce que. Souvent, le coach, il ne faisait pas défendre ses deux attaquants. Il les faisait attendre la récup pour être les premiers joueurs, soit touchés, soit utilisés dans un espace. Voilà, mais c'est deux lignes de quatre, on sait qu'on pouvait défendre. Donc pour nous, c'était une répétition. Voilà. Après, le fait de gagner le match, après, c'est le plan émotionnel qui prend le dessus. Oui. Et quand vous commencez à vivre des émotions, parce qu'on a l'impression que c'est très structuré, très stéréotypé, on a l'impression que animé, c'est difficile. Mais lorsque vous arrivez à une anticipation, où on laisse passer le ballon, il y a toujours un joueur derrière. Vous avez un Marama Vairua qui fait une fin de remisée. Il embarque toute la défense. Après, il met une petite balle piquée, contre-pied collectif. Ça part à côté, ça centre, tête de Gignac. Vous êtes au maximum du collectif.
Même c'est dit comme
incroyable.
Là, c'est très, très beau. Même dit comme ça, là.
Non, mais c'est incroyable. Très, très on était capable de faire des séquences à 30-40 passes. Mais c'est génial. Ça joue en une touche. Quand le joueur joue en deux touches, on était quasiment dégoûté, quoi. Mais pourquoi tu la joues pas une touche ? Tu sais, c'était devenu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ? Une passe mal appuyée, mais qu'est-ce que tu fais ? Toutes les passes, elles sont claquées au sol, à fond 20 mètres, ça accélère le jeu. Tu vois ? C'était incroyable. C'est incroyable.
Ça te manque ?
Non, ça me manque pas, mais j'ai touché du doigt la qualité de l'entraîneur. Là, sur le travail à l'entraînement, restitution, projection en match, on est au summum. Hein.
Et du coup, passer de Christian Gourcuff à Didier Deschamps, c'est pas du tout le même football.
Ouais,
ça t'a fait bizarre ?
On n'est pas dans le même projet.
On n'est pas dans le même projet, voilà. C'est sûr.
On est dans un projet, l'entraîneur, il y a un contexte. On est à l'Olympique de Marseille. Si vous ne voulez pas avoir de problème à Marseille, il faut gagner les matchs.
C'est vrai.
C'est tout. Il n'y a pas deux options. Il y a une seule option, gagner les matchs. La deuxième, c'est gagner les matchs.
Et pourquoi tu vas à Marseille, justement ? Tu parles de ce football que tu as pratiqué à Lorient, qui était très, très beau, très, très pur, j'ai envie de dire. Mmh. Il me semble que tu as une offre de Nancy.
Nancy, Bordeaux, Monaco, Paris.
Et finalement,
Paris.
Tu signes à Marseille. C'est quoi ? C'est l'arrivée de Deschamps ou le fait que le club était quand même sur une bonne
série ?
La Ligue des Champions,
ouais.
Que tu voulais jouer.
J'arrivais à maturité, j'étais bien. J'étais arrivé bon moment.
T'as 30 ans, c'est ça, ouais.
Exactement. Ouais. Je me sens bien dans mon football. Je me vois pas quitter Lorient sur le plan footballistique pour aller dans un autre club qui jouait pas la Coupe d'Europe. Il y a aucun intérêt en fait. Et lorsque je pars à... Parce qu'il y avait Lens à l'époque aussi. Je voulais un public, je voulais que ça, ça chauffe un peu. Voilà, j'avais envie de me mettre... me sortir de ma zone de confort, c'était pas un confort, parce qu'il fallait courir des kilomètres, c'est 12-13 kilomètres, il n'y a pas de confort, 13 kilomètres par match, mais j'avais envie, voilà, que ça soit un peu plus électrique, voilà, j'avais envie, j'avais besoin de ça, j'avais envie de me remettre un peu, ouais, changer de système, me confronter, voilà, me situer, m'évaluer, à l'Olympique de Marseille, ouais, ça me parle, voilà. J'ai pas d'état d'âme, je suis prêt. Voilà. Première conférence de presse, je dis que je viens pour gagner des titres. Parce que pour moi, c'est logique, à Marseille, on est là pour gagner des titres.
Spoiler, tu t'en gagnes. Voilà.
Voilà, je suis content par rapport à ça, parce que l'objectif, il est rempli. C'était difficile. J'ai été très bon. Lorsque j'arrive, vraiment, c'était. J'étais bien. Rien à dire, j'étais bien, j'étais c'était fluide, voilà. Je ne pensais pas gagner des titres à la fin, parce que c'était compliqué. On n'avait pas le meilleur football.
Ah, c'est vrai,
on est des bonhommes, hein, on est des bonhommes, par contre.
C'est vrai que moi, je me rappelle de cette saison-là. On est, je crois, janvier. Ça ne va pas très bien à l'OM, il y a des défaites. Je crois qu'il y a une défaite contre Auxerre en décembre, après une autre
ouais,
à Montpellier.
Dernier match, ouais. Allez, les chèvres, ouais, j'étais mort de rire.
Bah, à ce moment-là, personne, je pense qu'on n'était pas beaucoup
personne,
à penser...
Personne ne voyait, ouais. Et puis on joue Bordeaux à Bordeaux. Enfin, partout, ils sont à 14 points fin janvier. On va à Montpellier, on se fait bouger comme pas possible, on perd. On arrive après Montpellier, on dit bon, réunion. Réunion, le coach dit réunion, vous avez besoin de parler, tout ça et tout, vous avez des choses à vous dire, ok, on a des choses à se dire. Il sort, tout le monde sort, on est là, entre joueurs, et on est quand même, moi j'avais 30 ans, j'étais quand même un cadre hein, du championnat de France, avec ceux qui parlaient, qui avaient, en plus moi j'étais meilleur joueur novembre, tout ça, de l'OM, de la Ligue 1, meilleur passeur en Ligue des Champions, etc. J'avais, à un moment donné...
sur le terrain, les faits parlaient pour toi, quoi.
Ouais, et question que je prenne le brassard, à un moment donné, voilà, clairement. Et donc j'avais j'étais tranquille, ouais, je pouvais parler. J'avais le crédit, ainsi que les autres anciens. Un Morientes, il peut parler, un Cabienzo, il peut parler... Enfin, c'est des sages, quoi, tu vois. Soulé, Diawara qui parle, Mamad Niang, capitaine, qui parle, tu vois. Donc, on est 4-5. Et si tu veux, on se dit les vérités.
Vous dites quoi?
On se dit tout simplement, on n'est pas une équipe. Mamad, Atem, Mathieu, Valbuena, les attaquants côté, qui dribblent, qui ne se replacent pas, ils ne font pas les efforts. Brandao, il est tout seul à courir. Nous, ça ne nous dérange pas de défendre pour vous. Mais vous ne faites pas la différence. Voilà, clairement, vous n'êtes pas au niveau.
Donc ça, c'est le vestiaire qui dit ça à Mamad, à Mathieu Valbuena.
Clairement, remise en question, attaque. Là, je suis poli. Je suis poli. Donc ça veut dire qu'en fait, l'intelligence qu'ils ont, c'est « Ok, les gars, on va défendre. » À partir du moment où ils ont pris conscience de ça eux-mêmes, parce que tu peux faire des discours, des réunions, on en a vu des centaines et des milliers. D'accord ? Dans tous les vestiaires, il y a des réunions.
C'est vrai.
Ça parle pour rien. La maturité, c'est quand tu dis et que le joueur qui est en face, il accepte la critique et qui met en pratique, là, tu ressembles à quelque chose. Et l'énergie, elle n'est plus pareille. Et lorsqu'on a fait ça, cette réunion, on fait la réunion, il me semble, le lundi, je passe en conférence de presse. Le jeudi, on a la Coupe de la Ligue à Toulouse. Demi-finale à jouer. Et ils sentent qu'il y a un truc le matin, je ne sais pas, ils avaient leurs infos, tu vois. Ils disent, ouais, une réunion, tout ça et tout. Et je ne peux pas vous dire ce qui a été dit en réunion. Parce qu'en finale, on s'en fout. Mais par contre, je vous dis qu'on gagne. Voilà, on va à Toulouse, on gagne. Demi-finale, après on va en finale. On gagne. Jeudi. Rendez-vous jeudi. On part jeudi, boum, on tape Toulouse. Finale derrière. Ça veut dire qu'en fait, tu sens le déclic à ce moment-là, et on est loin de Bordeaux, hein, 12 ou 13 points.
C'est vrai.
Clairement, dans la réunion, on dit oublier le titre. Hein. C'est terminé. pas de titre, pas de deuxième, pas de troisième, on va déjà gagner là. C'est saoulé, il dit ouais, oubliez le titre, c'est fini le titre, on n'en parle pas, je veux personne, je veux entendre personne parler de titre. Arrêtez, on est des rêveurs. Et lui, il venait d'être champion de France doublé avec Bordeaux, il sait de quoi il parle, concrètement, directement, tu vois. Et en fait, on enchaîne comme ça, et après, c'est parti, on rentrait sur le terrain, ben, c'est bon, c'est fini. On était une vraie équipe. Et on arrive jusqu'à la Coupe de la Ligue. Et arrivé à la Coupe de la Ligue, là, je vous raconte la saison de 2010, quoi, 2009-2010, pratiquement. On arrive à la Coupe de la Ligue, on joue Bordeaux.
En finale, c'est ça, ouais.
Et quand on joue Bordeaux, on va sur le terrain avec Soulé, on voit Alou, Alou Diarra, qui joue à Bordeaux. Et en fait, Alou, Bordeaux rejouait Lyon en quart de finale de Ligue des Champions, ouais. 4 ou 5 jours après. Et en fait, on interpelle Alou, on dit Alou, tu peux rentrer chez toi, hein. La coupe vient chez nous. Et Alou, en fait, on rigolait, tu vois. Et on attendait tu sais quoi, l'année dernière, c'était nous, cette année, c'est encore. Là, rien! Vide, coquille vide. Il savait pas trop quoi répondre, il a été choqué, il était pas déterminé. On a senti l'incertitude.
Arrête.
Et Soulé me dit, hey, Fabrice, laisse, c'est pour nous. Je regarde Soulé, j'ai dit, putain, il est fou ce mec, tu vois, je me dis, il est con quoi, tu vois. On rentre dans le vestiaire, l'heure de jeu, coup de tête de Soulé, terminé, bloc, c'est fini, 3-1, on est rentré chez nous. Et de là, après, on fait le bus impérial. Ça faisait 17 ans que l'équipe n'avait, que le club n'avait pas gagné de titre.
Et c'est vrai, et beaucoup de gens ont dit, oh, c'est trop pour une Coupe de la Ligue.
Mais moi aussi, je trouvais que c'est trop.
Ouais, tu trouvais que c'était trop
ouais,
aussi.
Ouais, je trouvais ça abusé quand même. On gagne une Coupe de la Ligue, c'est pas un titre majeur, c'est un titre, tu vois. Mais voir ce monde sur le vieux port nous attendre et tout ça, les gens plongés dans l'eau et tout, machin, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai imaginé, on ramène le titre. Et les mecs, ils se disent, ben, on va ramener le titre. Je te raconte. Et bam, derrière, on a enchaîné. Et en fait, l'écart se réduisait. Et nous, on avait 2 matchs en retard contre la même équipe, contre Sochaux. Parce que justement, on avait fait la finale de Coupe de la Ligue. Et on avait un match qui était en retard. Et le jeudi, on joue Sochaux. On va à Sochaux. Et on gagne. Et on revient à 2 points, je crois. Et il nous reste un match en retard. Et ça joue, ça joue, ça joue. Et on rejoue le match en retard de Sochaux 15 jours après. Et Taïwo, je ne sais pas si tu te souviens, il veut centrer la balle
dans la lucarne. Oui, oui. Il dit c'était fait exprès.
Mais c'était tout droit, en fait. C'était tout droit. On pouvait centrer, même on pouvait tirer dans la tribune, le ballon, il rentrait tout seul dans les buts. C'était incroyable, c'est tout droit. Et quand on gagne ce deuxième match en retard, on passe devant, terminé.
Là, dans vos têtes, dans ta tête, tu te dis...
Non, c'est terminé. Tu vois comment ça se passe.
D'autant plus qu'à Bordeaux, il y avait l'affaire Laurent Blanc, on ne savait pas si elle allait prendre la sélection ou pas. C'était un peu, un peu flou. Donc.
Il y avait trop d'incertitudes, ils étaient trop machin, mais on ne savait même pas ce qui se passait là-bas. Tu vois. On entendait des bribes comme ça. Y a un peu de... On s'en foutait. Parce que nous, on avait notre destin entre les pieds. Et si on gagnait nos 2 matchs en retard, on était premier. Mais après, une fois que tu es premier, je ne fais pas de faux pas. Au minima, le même parcours que ton deuxième, il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas champion. Malheureusement, derrière, on a fait victoire sur victoire sur victoire. On a enchaîné 4 ou 5 victoires. On est champion contre Rennes. On ne met pas un coup franc de l'année. Gabi, il propose le ballon, il tire coup franc but. Il dit, mais c'est bon, il ne peut rien nous arriver. Tu vois, c'est des trucs, tu ne peux rien faire. On va à Boulogne le week-end d'avant, le dimanche. On va à Boulogne, on perd 1-0, on revient à 1-1, 95e, main dans la surface, penalty pour nous, Taïwo tire 2-1, 96e. Voilà, c'était fini, quoi. Je veux dire, tout était droit pour nous. Tu vois, tu sais, t'as un sentiment de puissance, tu vois. Tu rentres sur le terrain, tu dis si je suis juste concentré, le match, on le gagne. Si chacun est concentré à son poste, en fait, c'était devenu ça. Chacun concentré à son poste, ça va aller. Et en fait, c'était exactement ça, en fait. On rentrait, on faisait que notre rôle. J'allais pas aller à gauche, là-bas, pour dire « Ouais, mais non ». On s'était occupé de faire chacun son rôle du mieux qu'on peut. Et s'il y avait un problème, ben, on avait des joueurs sur le banc. Et hop, ça re-rentrait, boum. Et à un moment donné, sur le banc, on avait comme des Ben Arfa, des Valbuena, quand même. Tu vois. Donc, commencer à ça se gratter la tête hein, pour faire l'effectif.
Et du coup, t'as eu ce que t'étais venu chercher, c'est-à-dire un titre. Enfin, t'en as eu même trois d'ailleurs. Là, quand tu gagnes la Coupe de la Ligue, après, dans la foulée, le championnat.
Ouais, trophée des champions. Trophée après, des champions. On finit deuxième.
Tu te dis, ça y est, j'ai enfin atteint ce que je veux.
Il est pour les autres, en fait. Ce titre, il est pour la crédibilité auprès des autres, tout simplement.
Ouais. Pour valider toutes tes bonnes années à Lorient, il fallait, pour valider ça, il fallait un titre quelque part.
Ouais, parce que quelque part, les gens, ils retiennent que ça.
Tu penses que s'il n'y avait pas eu ces titres avec Marseille, on aurait oublié le Fabrice Sabriel,
évidemment.
Beau joueur de Lorient. Tu as toujours le record de matchs consécutifs en Ligue 1, ouais. 76, c'est ça. On aurait oublié tout ça, tu penses?
Ouais, bien sûr. Après, c'est que le club où tu as évolué. À Lorient, on ne m'aurait pas oublié, parce que je finis deux fois meilleur joueur de l'année quand même. Tu vois? Donc, on ne m'oublie pas. À Amiens, c'est pareil. Je finis meilleur joueur de l'année, deux fois de suite. Tu vois? Donc, il y a des choses qui sont faites, elles sont écrites. Tu peux pas, tu vois. Tu me parles du record des matchs consécutifs. Enfin, c'est concret, quoi. Tu peux pas l'enlever. Et encore, ils ont pas compté l'année de Ligue 2 juste avant à Guingamp. Mais je suis pas sorti, en fait, pendant 4 ans. Tu vois, ils ont pas fait Ligue 2, Ligue 1, ils ont fait que Ligue 1. Donc, en fait, quand tu regardes, et sachant que ce record, là, il tombe parce que là, j'ai pris 3 cartons jaunes la deuxième saison, et que la troisième saison, je la recommence suspendue. C'est comme ça qu'il tombe le record.
Quand t'arrives, c'est y a un recrutement, on va dire, un peu flamboyant qui est à Marseille. Donc toi, t'arrives, mais t'as des mecs comme Lucho, Heinze, Morientes, bon, qui n'a pas beaucoup joué, mais voilà. T'as un recrutement assez ambitieux. Et dans ton secteur de jeu, donc c'est le milieu de terrain, il y avait quand même du monde. Il y avait Stéphane Mbia, Edouard Cissé, Lucho, Chérou. T'as joué pas mal aussi côté droit, un peu plus
exactement,
haut, Valbuena, tout ça. Ça t'a pas, entre guillemets, genre, pas freiné, mais tu t'es pas dit, genre, en gros, bon, je vais à Marseille, mais je vais pas forcément jouer beaucoup, quoi. Parce que vu tous les noms, vu tous les mecs qu'il y a devant moi,
ou qu'il y a dans ma zone. Questions... Non, je comprends.
T'as pas douté à un moment ?
Ben, en fait, c'est des questions que je me suis posées avant. Si j'avais envie de continuer à jouer, je serais resté à Lorient. Et c'était pas le temps de jeu qui m'intéressait, c'est de gagner des titres. Et je savais très bien que ça passait par, quand on fait un marathon, à un moment donné, il y a un relais, on laisse, tu vois, on se repose, on est un peu moins, utilisé, mais ça permet de récupérer et d'être... En fait, c'était l'utilisation à 100% au moment où on fait appel à toi, en fait. Voilà. Quand on fait appel à toi, il faut être à 100%. Point. À la fin, on fait les comptes. C'est suffisant, c'est pas suffisant. On est content, on n'est pas content. Le club, tes attentes, l'attente du club. Tu vois, après, on fait un point, on fait un bilan. Mais avant d'arriver, je dis, je viens pour gagner des titres. Je dis pas, je viens pour jouer.
Tu viens pour gagner des titres.
Je me trompe pas d'objectif. Je viens pour gagner des titres. Et forcément, si on a un effectif, il faut l'utiliser. Parce qu'on sera beaucoup plus fort en étant à 100%, voire à 200%, puisque tous les week-ends, quand une équipe affronte Marseille, ils jouent pour la battre. Donc nous, on a besoin d'énergie. Et ça a fait du bien à Atem et à Mathieu Valbuena de ne pas jouer quasiment la première partie. Ils n'ont pas joué. Mais par contre, la deuxième partie, ben heureusement qu'ils sont là, quoi. Parce que c'est eux qui ont pris le relais, qui ont impulsé, qui ont donné une énergie, qui ont créé des décalages, fait des différences. Ils ont pris des risques. Créer des opportunités, il y a eu du talent à un moment donné, tu vois. Nous, on a mis la base, on a lancé le truc. Et après, derrière, on est sur des relais. On a joué Europa League, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, Ligue des Champions. Je suis arrivé pratiquement à 60 matchs à la fin de saison. Si vous n'avez pas un effectif complet, qualitatif et quantitatif, c'est même pas la peine.
Et après la deuxième saison, j'ai l'impression que c'était un peu plus compliqué pour toi.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
En temps de jeu.
En temps
ouais,
de jeu.
Ouais, bien sûr. Bah parce que après, on arrive sur une guerre interne entre José et Didier Deschamps. Voilà, il y a le recrutement d'Alou Diarra. Il y a des choses. Il y a les frères Ayou. On prend Gignac, on prend Rémy. On arrive sur un problème de lutte de pouvoir après une victoire. Voilà.
Oui, c'est ça, clairement.
Très simplement. Et moi, plus On a dit que j'étais un peu plus proche de José.
Oui, c'est vrai, c'est ce que les gens disaient. Il y avait deux camps. Il y avait les joueurs d'Anigo, voilà. Les joueurs de Deschamps.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je m'en fous, en fait. Je suis là pour jouer et gagner des titres. Et à l'arrivée, en fait, quand on regarde bien, on rentre. Et moi, je comprends un peu ce qui se passe. On rentre dans un... Si t'es pas avec moi, t'es avec l'autre. En fait, tu peux pas être neutre. Tu peux pas être l'arbitre. Tu vois ? T'es ou rouge ou t'es bleu. Tu peux pas être l'arbitre. Et moi, en fait, José, c'est pas mon père. Didier Deschamps, c'est pas mon père. Voilà, chacun sa vie, quoi. Mais si on se positionne pas, on dit que ouais, t'es plus là, t'es plus là. Quand vous jouez moins, le coach, il dit, il va m'en vouloir. Tu vois, c'est, en fait, on rentre dans une paranoïa, tout simplement. Et la meilleure chose, c'est quand vous comprenez ce qui se passe, vous dites, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Au revoir. Il me reste un an, on s'arrange et je m'en vais. Je ne vais pas me battre pour rester à Marseille. Hein.
Mais tu lui as dit à Deschamps, non, je ne suis pas l'homme d'Anigo, ou enfin, je suis neutre, tu
Mais non, parce qu'en fait, c'est jamais direct, c'est toujours indirect. Il n'y a personne qui se positionne réellement pour dire, voilà, on est sur du... pas des non-dits, on est sur... On pense que... Tu sais, en fait, quand t'es parano, je peux te donner une information, tu vas la prendre différemment. T'es pas sain.
Je vois.
Tu vois, pour accepter le message, il n'y a pas une pensée saine. Tu vois, donc en fait, tout ce qui se passe, tu dis, il a dit ça, il attaque mon jeu. Ah non, qu'est-ce que tu racontes ? Non, j'attaque pas ton jeu. Tu vois, par exemple, je te dis pas j'ai fait ça, parce que moi, je parlais pas trop à la presse, quand ils me sollicitaient, je répondais avec politesse, et en fait, on est surtout sur une lutte de pouvoir qui va à l'inverse de l'intérêt du club, voilà, tout simplement, intérêt sportif. On finit quand même par finir deuxième,
oui.
On finit quand même par gagner la Coupe de la Ligue, on finit quand même par regagner le trophée des champions.
Il y a ce qualifié aussi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Voilà, contre Manchester, aller-retour. Mais on voit bien que ce n'est pas fluide, on voit bien qu'on a des difficultés, qu'à un moment donné, pour passer, pour finir premier ou pour passer les huitièmes, il faut bien une cohésion de tout le club.
Ouais.
Tu vois, sinon, ça va se sentir, quoi. Voilà, on n'a pas... Donc moi, j'ai préféré ne pas rentrer dans ces guerres-là, parce que l'année d'après, c'était...
Ce que j'allais dire, c'est que au final, t'es parti au bon moment,
J'ai senti...
avant l'implosion du
groupe, j'ai senti que c'était trop... Non, j'ai senti qu'à un moment donné, ça allait sortir, et ouvertement, ça commençait à parler... Des petits trucs qui sortent dans la presse, machin et tout. Moi, j'ai dit, tranquille. Hein.
Et un truc que j'avais noté aussi sur ta carrière, c'est que tu restes jamais, t'es jamais resté plus de trois saisons. Tu fais trois saisons à Lorient, trois saisons à Nice, mais jamais plus. Est-ce que tu aurais aimé t'imposer, peut-être pas t'imposer, c'est peut-être pas le bon terme, mais rester plus longtemps dans...
M'inscrire. Le seul club où je voulais m'inscrire dans la durée, c'était le Paris Saint-Germain, parce que je suis formé là-bas. Voilà, donc soit tu imagines une carrière, parce que nous, à l'époque, on avait vraiment des joueurs qui restaient, comme Paolo Maldini, Francesco Totti, voilà, on a Zanetti, tiens, on avait vraiment une vraie identité du joueur par rapport au club, quoi. Donc nous, au Paris Saint-Germain, les jeunes comme nous, formés depuis pupille, comme Grégory Pesley, Pierre Ducrot, Nicolas Anelka, j'en passe, parce qu'après les autres, c'est plus de la même génération, c'est les Benachour après. Voilà, des joueurs qui ont traversé l'association, puis rentré au centre de formation, progressé, on a vu tous les entraîneurs, on a été dans le 78, dans le 93, dans le 94, tu vois, contre Sarcelles, les Lilas, le Red Star, Racing, on connaît un peu tout cet environnement, on sait ce qui se passe, on est vraiment amoureux de ce club, passionné, parce qu'on sait ce qu'on porte comme maillot, tu vois. Et souvent, on avait toujours dû se battre contre des joueurs qu'on recrutait parce qu'on leur proposait un contrat et qui s'en foutaient du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, le problème, c'est celui-là. C'est quand vous payez un joueur pour venir au Paris Saint-Germain, ne vous étonnez pas qu'il parte pour l'argent après. Voilà, il partira du club parce qu'on lui proposera un meilleur club avec plus d'argent. Parce que vous attirez par... Non, c'est l'identité. Voilà, nous, on était là, on n'était pas payé et on jouait à 2000%. Et quasiment la plupart des joueurs à l'association, c'est ça. Donc, à un moment donné, peut-être que le recrutement... Là, je fais un petit message pour le Paris Saint-Germain. D'aujourd'hui, regardez déjà ce que vous avez chez vous.
C'est donc, pas plus dur aujourd'hui, justement, avec le PSG version QSI, avec les hautes attentes.
Mais c'était la même chose avec Canal+. C'était quasiment la même chose. Le seul, vraiment, à l'époque, qui avait pris le risque, un des premiers à prendre le risque, c'était Luis Fernandez. Sur sa première année où il lance quand même Djamel Belmadi, Samir Amiresh, Didier Domi, Nicolas Anelka à 17 ans, Bernard Alou, Pascal Nouma, Francis Lasserre, Jérôme Leroy. Enfin, j'en passe, quoi. Il y en avait plein. Il y avait un projet comme ça. Il a pris le risque. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne prendra le risque. Parce que les Qataris, quand ils payent un joueur cher, c'est pour le voir sur le terrain. Et qu'est-ce que vous voulez dire à un propriétaire qui vous dit ça? Vous pouvez rien faire. Donc après, la passerelle d'utiliser les joueurs, c'est vraiment en cas de blessure, pénurie d'effectifs, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un décalage aussi chez les jeunes. C'est qu'à notre époque, je ne veux pas faire le vieux, mais à notre époque, quand on montait au mérite, parce qu'on était les meilleurs. Aujourd'hui, on les met en situation et ensuite on voit comment ils s'adaptent. C'est différent. Alors que nous, à l'époque, quand on montait, un joueur comme Nicolas Anelka, quand il montait, Didier Domi, tout ça, c'est un joueur déjà qui s'est surclassé. Hein, parce qu'il pouvait jouer encore U17, surclassé en National 2, but sur but, meilleur buteur de National 2. Il montait avec les pros. C'est normal. Didier Domi, équipe de France, surclassé. Voilà. Il va chez les pros. C'est des mecs, et puis il va chez les pros, et ils sont super bons. On vous regarde l'entraînement, crochet, Francis Lasserre, Colter, tout ça, dans le vent, tac, Alain Roche et tout, les mecs internationaux. Tu te dis, putain, le mec, il est trop fort, en fait. Tu vois? Et il joue. Il joue par son talent. Tu vois? Aujourd'hui, des joueurs qui jouent, c'est pas les meilleurs.
T'as l'impression que c'est genre les. Tu penses à qui? Genre les Wengenda, Nkunku, des joueurs comme ça, tu penses que c'est pas les meilleurs.
Non, mais moi, ce que je vois, c'est que. On les met en situation, Dagba, on les fait monter, puis on voit. Non, Dagba, j'aime beaucoup. Tu vois, il y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs. Un joueur comme Rabiot, très bon, Kimpembe, très bon. Il y a rien à dire. Ce que je dis, c'est qu'en fait, on les met là-haut dans le groupe pro. Elles n'ont pas forcément une consistance. C'est au Paris Saint-Germain, mais c'est pas pratiquement dans beaucoup de centres de clubs professionnels. C'est comme ça. C'est qu'ils n'ont pas assez de matière. Pas assez de c'est pas les meilleurs joueurs sur 5-6 matchs, il y a pas assez de régularité, il y a pas assez de confiance dans la performance en fait pour qu'ils puissent monter. Souvent ils montent parce que c'est une opportunité. On a besoin d'eux. Un milieu de terrain, défenseur central. Voilà, qui est bon, bah lui il mérite sur le match. Et parfois le joueur redescend, il fait pas une bonne séance. Et il repart, il va sur le banc le week-end, tu vois, il y a pas de suivi quoi.
Et il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est quand je t'ai entendu parler du PSG, quand tu disais que tu voulais t'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain, je me suis dit, c'est quand même... Ça te fait pas bizarre de dire ça, sachant que t'as gagné un titre de champion de France avec l'OM. T'as jamais été un peu dans la schizophrénie, c'est-à-dire formé au PSG, j'ai voulu m'imposer au PSG, mais au final, le club où je gagne un titre, où je gagne des titres, c'est l'Olympique de Marseille.
Ouais, bah après, ça, c'est le destin. Je n'ai pas choisi le club pour gagner des titres. Hein. Si j'avais pu en gagner avec tous les clubs, j'en aurais gagné. J'étais à Genève, au Servette de Genève. C'était Lucien Favre à l'époque. J'étais prêté, on a gagné la Coupe de Suisse. C'était mon premier trophée. Après, je suis revenu au Paris Saint-Germain. Il y avait l'Intertoto à l'époque avec Luis Fernandez. On l'a gagné aussi.
Oh, ça compte, c'est pas un vrai titre. Ça.
Non, c'est pas un vrai titre. Mais en fait, tu vas au bout d'une aventure en oui. fait, pour te qualifier pour la Coupe d'Europe. Voilà, c'était si tu gagnes pas l'Intertoto, tu peux pas aller en Coupe d'Europe derrière. Tu vois, c'était clair quoi, tu vois. Donc c'était un challenge, on va au bout. Après j'arrive à Marseille, c'est pour moi entre Guingamp, Amiens et Lorient la seule possibilité de gagner un titre majeur, c'est-à-dire un titre sur 10 mois, bah c'est Marseille quoi. ils ont tout pour gagner, avec l'effectif, les salaires, voilà, il y a tout, le public, le vécu, il y a tout, quoi. Le Paris Saint-Germain, parfois, il vaut mieux pour quand t'apprécies un club ou même un endroit, même une personne, et parfois il vaut mieux pas travailler avec. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière d'entraîneur? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Où est-ce que t'aimerais aller? Je dis pas en termes de club, mais en termes de niveau de jeu, de compétition. Où est-ce que tu veux aller?
J'ai un chemin à prendre pour accéder au dernier diplôme d'entraîneur pro, voilà, qui est d'accéder, d'être au contact. Il y a plusieurs critères. Il faut être au contact d'un club pro, donc d'être adjoint en Ligue 1 ou en Ligue 2. D'avoir une réserve nationale 2 de préférence, capable de monter en nationale 1. Être au centre de formation aussi, d'avoir une réserve nationale 2, nationale 3. Voilà, ce sont des critères que la Fédé prend en compte pour pouvoir te faire vivre une formation pleine qui va te servir à te projeter pour le diplôme. Donc en fait, ce que tu peux me souhaiter, c'est d'avoir la situation l'année prochaine pour pouvoir me présenter dans un an ou dans deux ans au diplôme professionnel avec un bagage.
Et à terme, c'est entraîner une équipe de Ligue 1?
À terme, c'est d'aller le plus haut possible. Je vais le plus haut possible. Je me suis fixé d'aller le plus haut possible dans les diplômes. En tant que joueur, je m'étais fixé aucune limite. Voilà. D'aller voir où sont d'ailleurs mes limites. Et en tant qu'entraîneur, ça va être pareil. Hein. De toute façon, si on ne fait pas, on ne saura pas. Donc je vais me mettre déjà en situation, passer des paliers concrètement, avoir des résultats avec mes équipes. Voilà, avoir une méthode. Et puis après, les clubs sauront qui je suis, donc forcément, ils sauront qui ils prennent. Voilà, ils viendront peut-être me chercher parce que j'ai proposé quelque chose dont ils avaient besoin. Et puis après, c'est comme ça que les histoires commencent et qu'on matche un peu les choses ensemble, quoi.
Alors, pour finir cet épisode, on va faire un petit jeu. Je suis ton agent.
Ouais.
D'accord. On est fin mai, début juin. Je t'appelle.
Ouais.
Allô Fabrice, écoute, j'ai eu 3 propositions. Il y a Lorient qui m'a appelé. Il y a le PSG qui m'a appelé. Et il y a Marseille qui m'a appelé.
Ouais.
Lorient, parce que on va dire qu'ils n'arrivent pas à monter en Ligue 1. Lorient, parce que voilà, ils n'ont pas réussi à monter en Ligue 1. Ils veulent partir sur un nouveau projet. Ils ont dégagé Landreau. Ils pensent à toi. Tu connais le club, tu connais la maison. Le 4-4-2 de Gourcuff, tu as mangé ça, tu connais ça par cœur. Ils veulent retrouver ça. Ils pensent à toi. Paris, finalement, Tourelle, voilà, l'élimination de Ligue des Champions, ça a fait un peu tâche et tout. Ils disent on va partir sur un entraîneur, entre guillemets, débutant, quelqu'un qui aime le PSG, on ne va pas se mentir. Ils ont pensé à toi. Et Marseille, Rudy Garcia, il n'a pas réussi à aller en Ligue des Champions. Ça a été un peu la merde sur la 3e saison. Il pense à toi. Tu vas où?
À Lorient.
À Lorient?
Ouais.
Sûr?
Sûr et certain, à 200%. Je vais à Lorient.
Ok. Pour tout ce que tu as dit tout à l'heure, pour tout ce que je viens de dire là, à l'instant, c'est...
C'est la construction. C'est la construction. Faut pas sauter les étapes. Je vais à Lorient, je l'ai fait monter, j'ai des billes. Une fois que j'ai fait monter Lorient, je vais dans un club qui joue la Coupe d'Europe, voilà, où je l'ai qualifié en Coupe d'Europe. Je joue la Coupe d'Europe avec cette équipe, je prouve en Coupe d'Europe, ensuite je vais dans une écurie forte.
On dirait une saison, une partie d'un football manager un peu.
Non, mais c'est comme ça que tu te construis en fait, parce qu'en fait tu arrives avec un vécu. Si tu n'as pas vécu la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, et que tu vas à Marseille, ou à Paris, est-ce que tu penses que tu peux leur apporter quelque chose?
Si tu as tes convictions.
Oui, mais tes convictions, elles n'ont pas été mises en pratique. On parle de théorie, là. Tu vois?
Tu les mets en pratique, justement,
en championnat. Tu vois? Je vais à Lorient, je suis en Ligue 2, je gagne des matchs, je monte en Ligue 1. Ouais, mais ce n'est pas des matchs de Ligue 1, c'est des matchs de Ligue 2. D'accord? Certes, j'en ai gagné beaucoup, je monte. Je monte en Ligue 1, je prouve. Tu vois? Donc déjà, il y a une autre matière. Mais si j'arrive à qualifier cette équipe de Lorient en Coupe d'Europe et que je fais la Coupe d'Europe et que je fais un huitième ou un quart de finale, ah, là, j'ai des billes à proposer. Mais même quand tu vas au Paris Saint-Germain ou à Marseille ou à Lyon, même un quart de finale, ça ne suffira pas pour les aider. Parce qu'ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'aller en finale ou en demi-finale, pas en quart de finale de l'Europa League. Tu comprends ou pas ?
Je comprends.
Donc en fait, il faut avoir fait le chemin pour pouvoir les aider. Et de quoi ils ont besoin ? Voilà. Et c'est là où tu vas devenir un vrai guide. Parce qu'en ayant fait le chemin, tu deviens un vrai guide. C'est ça l'idée. Sinon, je ne peux pas les accompagner, je vais découvrir. Tu vois ? Donc quand ils prennent Unai Emery, qui n'a pas fait la Ligue des Champions,
tu penses que vraiment,
ils vont découvrir.
Tu penses que vraiment ça a joué ça ?
À un moment donné, dans le crédit des joueurs, ça joue. Parce que ce que tu dis, oui les gars, on va le faire, mais est-ce mais que toi tu l'as
comme,
déjà fait ?
Des joueurs comme eux, ceux du PSG qui ont connu. Mais des...
Okay. Eh oui, mais on parle de quoi ?
Ok, ok, je vois. Bah écoute, c'est ce que je te souhaite, d'avoir ce parcours. Vraiment, c'est ce que je te souhaite.
Ouais.
Et Lorient, Paris-Marseille ou n'importe quel
autre,
ou d'autres clubs d'ailleurs.
Ouais, d'avoir une construction.
Juste de te construire.
Ouais.
Donc vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et puis je te remercie aussi d'avoir pris le temps de venir dans Banquet, de parler de football, de ta carrière de joueur, d'entraîneur et tout, etc.
Ouais, merci.
C'était vraiment sympa. Et puis, bah, bonne continuation pour la suite.
Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler football. Hein, on est des passionnés. On ne dit pas la vérité. Chacun a sa méthode en tant qu'entraîneur. On ne juge pas les joueurs, on ne juge pas les hommes. On juge des situations, des actions. Voilà. Et bah, j'espère que vous avez appris un peu plus sur moi et puis que c'était assez clair le message. On aime le jeu.
Très clair, très clair. Merci Fabrice.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari, montage et mixage de Laurie Galligani et prise de son de Nick Buxton au studio Basement. Merci à Fabrice Abriel d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour nous faire grimper dans le podcast game, ce serait très gentil de votre part. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao !